Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 9 mars prochain seront célébrés de manière solennelle les 250 ans de la réhabilitation de Jean Calas, ce protestant de Toulouse victime de l'intolérance. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sa terrible aventure. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Peut-être l'affaire Calas serait-elle moins connue si le grand Voltaire en personne ne s'était fait l'avocat du condamné. Malheureusement pour Calas, un avocat à titre posthume. Qui de mieux indiqué pour évoquer ce dossier historique que le maître des chroniqueurs judiciaires, Paul Lefèvre, qui est avec nous dans ce studio, et j'en suis tout à fait ravi. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Jules via la page Facebook de l'émission sur l'origine de l'expression « faire le mariole ». Ben, c'est une drôle de question, mais pourquoi pas? Je ne sais pas si l'expression pourrait s'appliquer à Voltaire. Il me semble que oui, finalement.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'affaire Calas, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est en vérité le premier des grands scandales judiciaires français. Son nom reste indissolublement attaché à celui de Voltaire, et l'on peut dire que c'est justice. Nous sommes en 1762, le 9 mars, lorsque, à Toulouse, Jean Calas, un marchand drapier de son état, est condamné à subir la question ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire des tortures absolument épouvantables, et le lendemain, il va subir la peine de la roue. Je vous lis exactement les attendus de l'arrêt. L'exécuteur lui rompra et brisera bras, jambes, cuisses et reins. Ensuite, l'exposera sur une roue qui sera dressée tout près de l'échafaud pour y vivre en peine et repentance tout autant qu'il plaira à Dieu lui donner vie, autrement dit, pour y mourir. En fait, après 2 heures d'humiliation terrible et de souffrance atroce, le bourreau abrégera le calvaire du malheureux en l'étranglant, puis son corps sera jeté sur le bûcher pour y être brûlé. On appelait donc ça, au siècle des Lumières, mais oui, on appelait ça être roué vif. Comme aurait dit Maître Floriot, il n'y a qu'un malheur. Et là, en l'occurrence, il y a un malheur avec Calas, c'est que, au pire moment des tortures, des supplices, ni le juge ni les prêtres n'auront pu obtenir de lui le moindre aveu. Alors qu'à la toute fin, son principal accusateur le supplie de dire la vérité, il ne s'attire que cette réponse « Je meurs innocent ». Puis il ajoute dans un souffle qu'il pardonne leur injustice à ceux qui le martyrisent et qui martyrisent en lui un innocent. Ça, c'est le genre de déclaration qui, à l'article de la mort, jette un certain froid, évidemment. Les juges sont pris de sueur froide, ils s'épongent le front dans la foule qui, au départ, était hostile. Un doute a fini par se faire jour, qui se répand. Et si Calas était bien innocent? Et si le glaive de la justice venait de commettre un meurtre? Très vite, un certain nombre de notables toulousains prennent fait et cause pour Calas et proposent d'obtenir sa réhabilitation. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ils vont remuer ciel et terre, et c'est comme cela qu'un négociant, un petit peu plus audacieux que les autres, profitant d'un déplacement à Genève pour affaires, va aller oser frapper à la porte du prince des philosophes, de l'esprit le plus brillant de son temps, le maître des polémistes, le grand Voltaire en personne. Oh, il est plutôt jeune, Voltaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a 68 ans, ce qui pour l'époque, évidemment, est un grand âge, d'une santé très fragile qui plus est. Vous savez qu'il était complètement atrabilaire, qu'il était convaincu constamment d'être très malade, d'être au bord de la mort. Enfin bon. Il vit à Ferney, en ermite, ronchon, au milieu de toute une petite cour d'admirateurs et de familiers. Et il serait faux de croire qu'il a tout de suite pris fait et cause pour Calas. Parce que ce que c'est Voltaire de cette affaire, et pour l'instant il n'en sait pas grand-chose, c'est que Calas était un protestant et qu'il aurait lui-même tué son fils parce qu'il menaçait de se convertir au catholicisme. Alors pour lui, on est en présence d'un cas de fanatisme. Et oui, sauf que le brave monsieur qui est venu lui expliquer l'histoire la lui raconte dans le moindre détail, et que ce qu'on va lui raconter, peu à peu, va le faire changer d'avis. Voltaire va se rendre compte qu'on est en présence d'un cas de fanatisme, et vous savez que ça, c'est sa grande affaire. Il signait un certain nombre de ses écrits, de ses lettres, « Écrelinfe, écrasons l'infâme », et sous ce terme d'infâme, c'est bien le fanatisme, et ce sont bien les fanatiques qu'il désignait. L'ermite de Ferney, dans cette histoire, va trouver une occasion magnifique de reprendre cette lutte contre le fanatisme qui aura été finalement la lutte de sa vie et de se mettre au cœur même de cette affaire. Car évidemment, cette affaire Calas, très bientôt, va devenir l'affaire Voltaire. Alors, revenons peut-être à l'affaire elle-même. Voltaire demande à un certain nombre de témoins d'aller sur place, d'enquêter, de venir lui faire le rapport des choses. Il se fait raconter les circonstances. Eh bien, les circonstances, les voici, et elles nous ramènent bien plus loin en arrière, bien entendu, le 13 octobre 1761. Il est près de 22h à Toulouse, dans la paroisse Saint-Étienne. On est rue des Filatiers, une bonne artère commerçante de Toulouse, quand soudain on entend des cris, des plaintes, tout un remue-ménage qui provient de la boutique des Calas. Alors on accourt, on frappe à la porte. C'est Pierre, le plus jeune fils, enfin pas le plus jeune d'ailleurs, un des fils de la maison, qui ouvre la porte et qui dit « Ah, c'est Marc-Antoine, c'est horrible, venez voir, venez voir. » La petite foule entre dans la boutique et là on découvre le corps d'un jeune homme, un homme de 29 ans, totalement livide, un garçon. Son chirurgien l'ausculte et ne tarde pas à découvrir qu'il a été étranglé. Étranglé, on a vraiment les traces de strangulation sur son cou. Donc, c'est une affaire criminelle. Donc, on convoque un des capitouls de Toulouse et c'est David de Baudry qui arrive. Oui, il n'arrive pas tout de suite. Il est 23h30 quand il se présente sur les lieux. Il se fait présenter les témoins. Alors, il demande qui était là présent. On lui dit qu'il y avait Jean Calas, le père, et son épouse. Marc-Antoine, la victime, et leur fils aîné. Ils ont 4 garçons et 2 filles. Pierre et leur fils cadet, ils avaient un ami qui était invité à souper, qui s'appelait Lavesse, qui vient de Bordeaux. Et puis il y avait la vieille servante Jeannette qui était là également ce soir-là. Les deux filles sont à la campagne, le fils Donna est en apprentissage, le dernier fils qui s'appelle Louis, a été chassé de la maison en 1756 parce qu'il s'était converti au catholicisme. Tiens, 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 là immédiatement l'affaire devient très intéressante pour David de Baudry. Ça change tout. Nous sommes en présence de protestants et il pourrait bien y avoir une espèce de crime filial, de vengeance pour des raisons religieuses. Est-ce que Baudry suspecte tout de suite les Calas ou est-ce qu'il décide de les enfermer pour les mettre à l'abri d'une foule vindicative? Je poserai la question tout à l'heure à Paul Lefebvre, c'est très difficile de le savoir. Toujours est-il qu'il les fait incarcérer à l'hôtel de ville. Alors, il pose des questions, bien entendu. Pierre raconte qu'à 21h45, il a raccompagné l'ami de la famille, Lavesse, pour lui dire au revoir. Il est descendu au rez-de-chaussée. En passant devant la porte de la boutique, il a vu qu'elle n'était pas bien fermée. Il a voulu la fermer. La porte a résisté. Et là, il s'est rendu compte que son frère était là derrière, qu'il était mort. Et donc, il a appelé au secours, etc. Voilà la thèse officielle. Donc, ce serait un crime. Donc, ce serait un maraudeur qui serait venu de l'extérieur et qui aurait tué Marc-Antoine Calas. Problème, les Calas vont changer d'avis. Et 3 jours plus tard, ils vont déclarer, en jurant sur la Bible, etc., qu'en vérité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, que le fils Calas, Marc-Antoine, s'est pendu, qu'il s'est suicidé. Mais alors, dit Baudry, pourquoi ne me l'avoir pas dit? Parce que nous voulions éviter la clé. Et oui, à l'époque, on n'avait pas le droit de se suicider. Et les personnes qui se suicidaient étaient promenées dans les rues sur une clé, ce qui était totalement humiliant pour le défunt et pour la famille. Et c'est pour éviter ce traitement que la famille aurait maquillé le suicide du fils en crime. Pourquoi pas? Mais vous allez voir que ça n'est pas si simple.
clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach sur Europe 1, interprété par Glenn Gould. Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'affaire judiciaire qui se déroula au milieu du XVIIIe siècle, l'affaire Calas.
Ainsi donc, Marc-Antoine Calas se serait lui-même pendu et c'est sa famille qui aurait maquillé ce suicide en crime pour que son corps ne soit pas traîné sur la claie à travers les rues de la ville. C'est assez crédible cette histoire, mais tout de même, Baudric veut en savoir davantage. L'enquêteur, le capitoul, il dit mais comment est-ce qu'il s'est pendu ? Oh, il s'est pendu à une bille, disent les Calas. Une bille, c'est-à-dire un gros rouleau de bois sur lequel ils enroulaient les pièces de drap et d'étoffe qu'ils vendaient dans la boutique. Alors le capitoul va se rendre sur place et il va procéder à une reconstitution, sauf que à 20 reprises, il va essayer de caler la bille sur une porte de placard comme le lui a expliqué Jean Calas, et à 20 reprises la bille est tombée, ce qui veut dire que cette thèse ne marche pas. Et puis de toute façon on n'a pas trouvé de tabouret ou d'escabelle dans la boutique, et puis il n'y avait pas de lumière puisqu'il n'y avait ni chandelle ni lampe au moment de la découverte du cadavre. Bref, cette histoire ne tient pas debout, et ça c'est terrible. Parce qu'à partir du moment où la thèse du suicide est réfutée, on accuse les Calas de s'être entendus pour faire un faux témoignage, et évidemment tout ce qu'ils pourront dire désormais ne sera plus du tout écouté. On va même faire mieux que ça, on va chercher des preuves de leur culpabilité. Et dans cette affaire terrible, on en appelle au monitoire, c'est-à-dire qu'on va demander aux prêtres dans les églises de faire appel à la délation, mais pire si je puis dire que ça, on va considérer les oui-dire comme quart de preuve et les simples ragots comme huitième de preuve. C'est-à-dire que vous avez 8 ragots contre les Calas, et ben ça vaut une preuve. Vous voyez un peu où on en est arrivé. Tout ça, c'est du pain béni pour Voltaire, bien entendu, qui ensuite va pouvoir aller remuer ciel et terre, faire jouer ses grandes relations et son prestige d'écrivain célèbre, bien entendu. Frédéric II, Catherine de Russie, tout le monde est évidemment impliqué dans l'histoire. À Versailles même, on s'interroge. Vous savez que la reine va faire une pension à la veuve Calas. Et Voltaire multiplie les grandes envolées. Il en appelle au cri public. Le 7 mars 1764, le conseil du roi ordonne que la procédure lui soit envoyée. Et le 9 mars 1765, c'est-à-dire exactement 4 ans après la condamnation, après l'exécution, les 40 juges des requêtes de l'hôtel, à l'unanimité, vont réhabiliter Jean Calas. Les autres membres de la famille, ainsi que Lavesse et Jeannette, seront lavés de tout soupçon. On peut dire que pour Voltaire, c'est un triomphe. Seulement, n'oublions pas un détail important. Le Parlement de Paris a cassé le jugement de 1762. Ça, c'est le Parlement de Paris. Mais le Parlement de Toulouse est considéré à l'époque comme une cour souveraine. C'est le Parlement de la capitale des États du Languedoc. C'est un parlement judiciairement souverain et il déclare que l'arrêt parisien de 1765 est nul et non avenu. N'oublions pas dans cette affaire que le Parlement de Toulouse a refusé de revenir sur son jugement. Ce qui prouve au moins une chose, c'est la bonne foi des magistrats toulousains, à défaut de prouver leur sagacité. En fait, pendant très longtemps, on n'a pas eu le fin mot sur cette affaire Calas. Alors je suis assez impatient de connaître l'avis de Paul Lefebvre sur cette affaire. Mais avant d'en venir là, je peux peut-être évoquer un certain nombre de versions, des versions qui ont été évoquées. Alain Decaux a toujours été convaincu qu'il s'agissait véritablement d'un suicide, en contradiction avec un certain nombre de données de la reconstitution. Disons que Decaux disait « c'est un suicide, mais on ne sait pas comment il s'est suicidé ». Et puis beaucoup d'autres historiens, je ne vais pas tous vous les citer, ont finalement penché pour la thèse d'une agression extérieure, comme si effectivement Marc-Antoine Calas aurait pu être la victime d'agresseurs extérieurs. Vous avouerez quand même que ça paraît assez alambiqué. Comment est-ce que cet agresseur extérieur aurait pu ensuite s'extirper de la boutique qui était fermée, triplement fermée, la porte était bloquée par le corps, il n'y avait encore une fois pas de lumière, enfin, et puis quel aurait pu être le motif? Alors on a dit que Marc-Antoine avait des dettes, que Marc-Antoine avait une vie extrêmement difficile, on a expliqué qu'effectivement il espérait se convertir au catholicisme pour pouvoir changer de métier. Enfin bon, on a monté beaucoup d'histoires. Il semblerait que la vérité, on la détienne à peu près maintenant. Voilà la version d'un monsieur qui s'appelle monsieur Jean Torel, qui habite à Toulouse et qui, en 1990, a publié cette version dans un numéro d'Historia. Monsieur Torel s'est appuyé pour travailler sur deux choses. Le rapport d'autopsie d'une part, et puis la première déposition de Pierre Calas, déposition faite à chaud au moment de la découverte du corps de son frère. Et puis aussi, il s'est intéressé aux pièces à conviction. Une corde à nœud coulant qui a été retrouvée sur place et qui ne faisait que 45 de nos centimètres, donc une toute petite corde, vous avouerez que c'est pas beaucoup, et tous les éléments du dossier, puisque ce dossier, il existe et l'on peut l'analyser encore aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on peut posséder les pièces d'une affaire, évidemment, ça permet parfois de reconstituer les faits après coup. Quelle a été la vérité, selon M. Torel, sur cette affaire Calas ? Eh bien, nous y venons dans un instant.
Chers auditeurs, pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions. Vous avez la page Facebook de l'émission, nous envoyez un mail également sur europe1.fr ou encore un message via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur l'affaire Calas.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à Toulouse en 1762 où se déroula l'affaire judiciaire Calas.
Alors voilà la version que nous donne Monsieur Torel de cette affaire Calas. Il nous dit que ce soir-là, bien après le dîner, Pierre Calas a raccompagné, comme il l'a raconté, son ami Lavesse. Il a descendu l'escalier et en passant dans le couloir le long de la porte du couloir qui donnait sur la boutique, il s'est rendu compte effectivement que la porte n'était pas bien fermée. Alors il a voulu la fermer, il s'est rendu compte que ça résistait. Et là, il découvre, derrière cette porte, complètement effondrée, il découvre le corps suicidé de son frère. Alors bien sûr, la famille est alertée et pour éviter le supplice posthume de la clef, on décide de maquiller ce suicide en crime. On va mettre cette cravate de soie noire autour du cou de la victime et on va appeler au secours en disant « il y a eu une attaque chez nous et Marc-Antoine a été tué ». Bon. Sauf que cette hypothèse, encore une fois, a été expliquée par les Calas dans leur prison, au moment, à l'occasion d'un dîner à la prison, ils l'ont expliqué à Maître Carrière qui est leur avocat. Et leur avocat leur a dit « mais il faut expliquer cette histoire, il faut le dire au juge, il faut dire que vous-même vous avez maquillé un suicide en crime ». Alors les Calas sont d'accord, mais le problème c'est que lorsqu'ils expliquent que le fils s'est suicidé en se pendant au bouton de la porte de la boutique, ça paraît peu crédible. On sait maintenant, et pour être tout à fait précis, depuis 1886, on a reconnu qu'il était tout à fait possible de se suicider à un bouton de porte ou même à une crémone de fenêtre. C'est tout à fait faisable, ce sont des conditions de mort épouvantables, mais on peut se suicider de cette manière. Mais au XVIIIe siècle, on n'en était pas convaincu. Et pour rendre la thèse plus crédible, c'est l'avocat Maître Carrière qui aurait soufflé à ses clients cette hypothèse de la bille de bois et des portes de placard comme support de la bille. Et dans la soirée du 14 octobre, il serait allé lui-même sur les lieux poser la bille que retrouvera Baudrigue le lendemain lorsqu'il viendra effectuer la reconstitution. Le problème, c'est que l'avocat aurait pu au moins s'assurer que ça marchait. Sa théorie. Or, ça ne marche pas du tout. La bille de bois, ça ne marche pas. Et à partir du moment où la thèse des Calas ne fonctionne plus, eh bien évidemment, leur parole a perdu tout crédit. Et ils se sont, dans cette affaire, piégés eux-mêmes. On a l'impression d'un piège qui se referme sur eux. Et Baudrigue aura beau jeu dès lors de les accabler et de pousser Jean Calas jusqu'à l'échafaud. Comme souvent, à quelque chose malheur est bon, si je puis dire, car si le fait divers Calas est aujourd'hui un peu oublié, même si avec cette célébration du 250e anniversaire, on va lui rendre une certaine actualité, l'intervention de Voltaire, elle, reste absolument inoubliable. Et Voltaire a mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre une procédure, la nécessité de se pencher sur les droits de la défense, la nécessité d'autoriser la défense à avoir un accès entier à toutes les pièces du dossier. Quand la créature la plus ignorée meurt de la même maladie qui a longtemps désolé la terre, elle avertit le monde entier que ce poison existe encore, disait Voltaire. Tous les hommes doivent dès lors se tenir sur leur garde. Et c'est extraordinaire de voir avec quelle énergie l'ermite de Ferney aura pris fait et cause pour le pauvre Jean Calas, pour la victime de Toulouse. Et tous ces gens qui sont heureux, écrivait-il, qui ont une famille, une femme, des enfants et qui rentrent chez eux tranquillement et qui dorment, eh bien, on va vous réveiller, messieurs. Et ce sont bien sûr les conseillers du Parlement de Toulouse qui sont là visés. Voltaire pose la question et il la pose au grand jour. Pourquoi les pièces ne sont-elles pas publiques puisque les sentences le sont, disait-il. On doit compte aux hommes du sang des hommes. Je n'ai que les mots, mais les mots volent loin. Et vous connaissez la formule de Voltaire. Ah, messieurs, nous allons faire sonner à vos oreilles les cloches de la justice. Et drelin, drelin, drelin. Lorsque Voltaire fait du bruit, cela s'entend dans toute l'Europe avec cet extraordinaire effet qui aura été d'innocenter Jean Calas, alors malheureusement 3 ans après sa mort. Mais c'est quand même une très grande victoire de justice. Et ce que vous allez voir, c'est que pour Voltaire, cette affaire Calas n'aura été qu'un galop d'essai puisque par la suite, il va se faire de façon beaucoup plus systématique le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Bonjour Paul Lefèvre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être chez vous, si je puis dire.
Oui.
Vous allez nous raconter cette affaire et les autres un peu comme une affaire d'aujourd'hui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en présence d'un véritable déni de justice.
Ah oui, c'est une erreur judiciaire patente, éclatante. Enfin, il faut évidemment aujourd'hui se reporter dans le climat, l'environnement juridique et judiciaire de l'époque. C'est vrai que Voltaire avait raison, au moins sur ce plan-là aussi, c'est que les droits de la défense n'existaient pas, et devant l'accusé, il n'y avait que le bourreau, avec ses pinces et ses bâtons rougis au fer rouge, quoi. Non, non, c'était quelque chose d'horrible. D'ailleurs, le martyr, parce que c'est le mot, le martyr de Jean Calas, est une preuve pourquoi, même s'il était coupable, pourquoi le découper comme ça et le martyriser ainsi. Ce qui prouve que l'homme, l'humanité, nous, y a les vieux démons, parce qu'il se passe aujourd'hui qu'on reproche à certains musulmans de Daesh, on les a, nous, produits auparavant, il faut bien dire les choses, c'est que le fanatisme religieux, il date d'avant, il est aujourd'hui là encore devant nous.
Alors, tout à l'heure dans l'escalier, vous me disiez que vous aviez sur l'affaire Calas votre théorie, eh bien on va l'entendre, cette théorie, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
De la bande originale du téléfilm Voltaire et l'affaire Calas. Cette affaire Calas dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité, le chroniqueur judiciaire Paul Lefèvre.
Alors Paul Lefèvre, nous avons sur cette affaire Calas un certain nombre d'aspects à revoir. D'abord, dans un premier temps, quelle est selon vous la théorie? Est-ce que cette théorie de M. Torel du suicide au bouton de porte vous convainc, vous?
Pas du tout, bien que dans l'histoire nous ayons des exemples. Évidemment, on trouve la petite cordelette qui pourrait, à la limite, d'une certaine manière, mais pour se pendre un bouton de porte, il faut vouloir mourir.
Oui, mais alors, ce que dit Torel, c'est que Marc-Antoine voulait mourir. Il était passé d'ailleurs voir la cuisinière Jeannette dans son office, juste avant de descendre, il était à peu près 20h à ce moment-là, et elle lui avait demandé s'il n'avait pas froid. Il avait répondu « froid, mais je boue ». Et elle l'avait trouvé dans un état très particulier.
Quelque part dans le dossier sur lequel j'ai travaillé, il y a un détail, parce qu'une enquête criminelle, c'est surtout une addition de détails.
Et bien sûr. Bon.
Et alors, il y a un détail qui est intéressant et qui renforce la théorie que je vais vous exposer. Pendant le dîner, il est préoccupé, il a la tête dans la main, ça n'est pas le garçon habituel qui d'ailleurs, avec sa famille, reçoit un invité avec lequel il n'a aucun contentieux, au contraire, il est content. Dans cette salle, une seule personne rentre, une seule personne sort, c'est lui, il n'y a pas de problème.
Oui. Il quitte le dîner.
Alors la théorie qui me semble d'ailleurs une théorie d'une grande simplicité, mais qui existe, c'est-à-dire que sa mère l'envoie chercher du Roquefort, et en même temps, elle lui donne quelques écus à changer en louis. Il le fait, en revenant, il passe par l'espèce de bistrot, il le fait une partie, il boit, et il ouvre la bourse, et quelqu'un voit la bourse pleine de louis. Voilà. Et il revient chez lui. Moi, ce que je cherche à savoir, où est la bourse? Et la bourse, on ne la retrouve pas. L'hypothèse qui me semble, moi, la plus simple, il a été suivi, on est rentré dans la maison, parce qu'un des témoins, des premiers témoins, les premiers témoignages, c'est d'ailleurs les meilleurs, parle d'un personnage, un homme habillé de bleu, mal mis, plus mal chaussé, d'un regard affreux qui s'est glissé dans la maison pendant le dîner, et c'est à ce moment-là qu'il a agressé Marc-Antoine, qui était descendu. Et pourquoi était-il descendu avec sa tête? Parce que probablement il avait joué, qu'une partie de la bourse il l'avait dépensée, et qu'il était bien embêté, parce que son père, les relations avec son père sont épouvantables, son père est un vieux radin, on le sait pas dans le dossier, et ben moi je suis persuadé que ça c'est comme, il a été agressé. Et il est beaucoup plus facile d'étrangler un homme par surprise, avec une simple corde, qu'on garde d'ailleurs, parce que les lacets, la blessure du cou, c'est pas une blessure large d'une corde,
c'est un lacet.
C'est lacet, oui. C'est noté dans le... C'est donc avec un lacet qu'on l'a étranglé par derrière. Et là, il n'a pas besoin de bouger beaucoup. Pour étrangler un homme surpris par derrière, il suffit de le plaquer dans le dos et de tirer fort à partir du moment où vous êtes costaud. Et ça peut se faire très rapidement. Il y a un détail aussi qui me chiffonne. C'est que le premier témoignage, Marc-Antoine est en chemise. Second témoignage de la famille, il a torse nu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir remettre le ruban autour du cou, selon la fausse thèse des Calas, ils lui ont enlevé la chemise. Mmh. Alors qu'en fin de compte, au départ, il était en pantalon et en chemise. Et il a été agressé comme ça.
Donc
ça, c'est
vous,
ma thèse.
Pour vous, c'est un vrai crime de maraudeur.
C'est un crime de maraudeur.
Oui, voilà.
Alors, le crime de maraudeur, ça explique tout.
Mais alors, pourquoi le 14 tout. Octobre, les Calas vont-ils totalement changer leur ligne de défense et après avoir eux-mêmes défendu cette thèse du crime de maraudeur, vont parler d'un suicide?
Mais parce que vous avez souligné avec justesse tout à l'heure que leur avocat était une bille, quoi. Et leur avocat leur a probablement...
Maître Carrière.
Carrière. Alors, pour éviter cette fameuse humiliation du corps sur la clé, etc., etc., parce qu'eux, ils n'ont pas pensé à l'agression, ils ont pensé tout de suite à la pendaison. Et pour éviter ça, ils sont omnibulés par ça, puisque ce sont des drapiers, c'est pas non plus des intellectuels.
Alors, ce que vous dites, c'est que Marc-Antoine... Ah, ça, c'est encore une théorie. En fait, Marc-Antoine aurait été victime d'un crime crapuleux, mais les parents, eux, auraient d'abord pensé à un suicide.
Oui, oui.
Et ce serait leur avocat, en leur rendant visite en prison...
Ils croient être plus malins que les autres. Et là, voilà.
Il leur dit, défendez, poursuivez cette thèse du suicide.
C'est pas la première fois qu'un avocat fait une erreur en défense.
Mais là, il a condamné son client.
Complètement.
Parce que là, évidemment, à partir du moment où la reconstitution ne fonctionnait pas, ça a été terminé.
En fin de compte, à la fin, on peut dire que Voltaire, il n'a pas sauvé Calas, mais il a sauvé sa femme, ses enfants, les garçons et les filles.
Oui, il leur a rendu tout leur bien, leur honneur, etc. Même la reine a fait carrément une pension à Madame Calas.
Il y a un détail également, moi, dans cette affaire-là, qui m'a touché, c'est l'influence de Voltaire. Mais à l'époque, puisque le Conseil du Roi est saisi très rapidement. Il faut s'appeler Voltaire pour pouvoir saisir ainsi le Conseil du Roi. C'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, ça serait la Cour de cassation plus le Conseil d'État.
Les ministres en même temps.
Tout en même temps. C'est l'arbitrage suprême, quoi. Bon. Son influence est telle que le Conseil du Roi se dit, mais si Voltaire pense ça, il devrait y avoir quelque chose derrière. C'est énorme. Quoi.
Alors ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que nous sommes en présence de ce Voltaire. Alors, on a fait beaucoup d'émissions ici sur Voltaire. On en a beaucoup parlé sous tous les aspects. C'est un personnage à la fois très irritant et très amusant. Et en même temps formidable, il faut le dire. Dans cette affaire, il s'est dit, attention, une population catholique, et notamment la fameuse secte des pénitents blancs. Hein, ça,
c'est les fanatiques d'aujourd'hui.
Voilà, exactement.
C'est Daesh d'aujourd'hui.
Si l'on peut dire, toute proportion gardée. Oui. Et Voltaire s'est dit, ces gens-là ont condamné un pauvre protestant parce qu'il était protestant. C'est ça qui intéresse Voltaire. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les détails de l'affaire lui échappent grandement.
Oui, oui.
C'est la dimension politique de l'affaire et religieuse qui l'intéresse.
Bah, nous sommes pas loin de la révocation de l'édit de Nantes. Ce sont des braves gens qui plus ou moins se sont convertis le couteau sous la gorge, mais qui ont gardé la culture protestante, etc. etc. Bon. Et la famille Calas, on voit bien Marc-Antoine qui veut devenir avocat, mais il ne peut pas parce qu'il est comment
dire... Pas le bon brevet de catholicité.
Voilà, il faut avoir... c'est comme nous aujourd'hui, avoir un casier judiciaire.
Certificat de bonne vie et mœurs.
Oui, c'est ça, oui. Bon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est, on plonge dans l'atmosphère d'opposition fanatique, aussi bien du côté des catholiques que du côté des protestants. Ça doit nous faire réfléchir. Elle est pas loin, ce tranche d'histoire. Elle est pas loin de nous.
Alors Voltaire prend fait et cause, il alerte d'Alembert, il alerte les grands esprits du temps, il met de son côté un certain nombre de souverains étrangers, et ça va compter, parce qu'évidemment ça agace un peu Louis XV de voir que le roi de Prusse, l'impératrice de Russie, etc., prennent fait et cause pour ce...
Il fait le ménage chez lui, il vient de faire le ménage chez lui.
Et finalement, on se rend compte qu'à Versailles et à Paris, la vie de Voltaire va primer, va l'emporter. Et ce qui est étonnant, c'est que au-delà de ça, les magistrats parisiens, c'est-à-dire les membres de la cour de cassation, si l'on peut dire, enfin on va dire de la chambre suprême du Parlement de Paris, vont désavouer leurs collègues de Toulouse et vont casser l'arrêt du Parlement de Toulouse.
Tient pas,
donc ça, c'est le 9 mars 1765, c'est ce dont on célèbre en ce moment le 250e anniversaire.
Mais en réalité, ça ne tient pas juridiquement, puisque vous l'avez fait remarquer à juste titre que le Parlement de Toulouse est souverain.
Il ne veut rien
comme
entendre.
Il y en a un autre, je ne sais plus lequel, en Dijon, je crois.
Et c'est inouï de voir que le Parlement de Toulouse ne veut rien entendre dans cette affaire.
Oui, c'est des cathares.
Alors, évidemment, David de Baudrigue va devenir peu à peu l'incarnation de l'arbitraire, de l'erreur judiciaire, du fanatisme, justement. Et lorsqu'on regarde son attitude dans cette affaire, vous me disiez, vous êtes d'accord, là, de ce point de vue-là, on est du même avis.
D'abord, il n'a pas une formation de procédure criminelle.
Bien sûr.
Il n'a pas une formation d'enquêteur. Parce que les enquêteurs.
Mais c'est pas un si mauvais enquêteur.
Mais non, d'ailleurs, le fait qu'il ait emmené, tout à l'heure, vous avez posé la question à juste titre, le fait qu'il ait emmené tout de suite à 10h ou 11h, à 11h. Il arrive 1h30 après les faits. Alors, d'abord, 1h30 après les faits, constaté, ça veut dire que...
Même trois heures après le meurtre, probablement.
Ouais, tout le voisinage est venu piétiner,
Il y a un monde fou dans cette boutique.
On ne sait pas très bien ce qui... On ne sait pas ce qui est resté. Avec ce qu'on
a... La scène de crime a été drôlement piétinée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, elle est complètement souillée, je veux dire qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé.
Et puis lui, il va quand même essayer de procéder à des interrogatoires contradictoires. Il met les calasses à l'abri. Il prend le temps de les écouter l'un après l'autre. Au moment où ils changent leur ligne de défense, il se rend sur place et à 20 reprises, il va essayer de voir s'il est possible que leur thèse tienne debout.
Quand
même, c'est assez étrange qu'on l'ait à ce point accablé.
La seule question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si, lorsqu'il a emmené la famille, la sortie de la maison, il l'a emmené au Parlement, est-ce que c'était pour les protéger ?
L'hôtel
de ville, c'était lui chercher le... c'était pour les protéger ou c'était déjà pour les avoir sous la main ?
Ah, voilà, ça on en
saura. À mon avis, c'est les deux.
En tout cas, le nom de Baudrigue va être voué aux gémonies. Et ce qui est inouï, c'est que quelques décennies plus tard, au moment de la Révolution française, le petit-fils de David de Baudrigue va être guillotiné uniquement parce qu'il est le petit-fils de son bourreau de grand-père.
Ce qui prouve quand même, on en parlait tout à l'heure, que 20 ans, 30 ans après, le souvenir de l'injustice, de la cruauté de l'affaire Calas est encore dans tous les esprits. Parce que se faire condamner parce que je m'appelle Smolduc alors que mon arrière-grand-père a commis un crime, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est étonnant. C'est un détail d'histoire qui doit...
C'est
fantastique.
Alors, Voltaire ne va pas s'en tenir là. Voltaire va devenir, à partir de ce moment, il va se sentir naître l'âme d'une sorte d'avocat universel et on va le voir prendre fait et cause pour les Sirvins, pour Lalith Hollandale et pour le jeune chevalier de la Barre. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'affaire Calas, avec votre invité Paul Lefebvre, le chroniqueur judiciaire.
Oui, c'est formidable d'avoir Paul Lefebvre avec nous pour parler de la justice d'hier comme s'il s'agissait de celle d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Voltaire est en quelque sorte un peu le saint patron des avocats. Est-ce qu'on peut dire ça, Paul Lefebvre ?
C'est le premier procédurier, d'abord. C'est le premier procédurier, c'est ça qui est important. C'est lui qui a introduit la notion de protection de la scène du crime, en quelque sorte. C'est lui qui a introduit la notion très importante des droits de la défense.
Des droits de la défense, ça c'est fondamental.
Et d'avoir accès à l'enquête, c'est ça qui est très important.
Alors, après l'affaire Calas, survient dans la même région encore une deuxième affaire qui fait beaucoup penser à cette première histoire. C'est l'affaire Sirvin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette famille Sirvin, Paul Lefebvre?
C'est une affaire qui est dramatique parce que monsieur Sirvin est un notaire à Castres, de bonne réputation apparemment. Il est protestant.
Et elle nous dit voilà.
Premier problème. Deuxième problème, il a trois filles.
Et il y en a une qui est un peu...
Et la troisième, Elisabeth, oui. Est handicapée mentale. Bon, vous vous rendez compte qu'à l'époque, ce que c'est que l'œil des gens sur une handicapée mentale. Aujourd'hui, on cherche à comprendre, à savoir, à protéger. À l'époque, quelque part, elle est habitée par le malin ou un truc comme ça. Bon, cet homme-là, il doit être un peu sanguin de temps en temps. Il ne doit pas être très, très doux tout le temps avec sa femme et ses filles. Le problème, quand même, c'est que ça se sait. Mais le 16 décembre 61, on apprend, c'est la rumeur, c'est les gens, etc. On apprend la disparition de cette Elisabeth,
jeune fille, là, oui.
Dont on va retrouver le corps un jour ou deux ou trois plus tard dans un puits. Il est immédiatement accusé d'avoir tué sa fille et il va se réfugier près de Mazamet. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que il n'y a aucune preuve que cet homme, qui peut-être mettait quelques baffes de temps en temps à ses filles,
et qui n'aimait pas les religieuses locales, qui avaient pris soin de sa fille, etc.
Bon, là, évidemment, il y a une zone d'ombre. Automatiquement, il est accusé du meurtre de sa fille parce que, d'abord, elle a été protégée par les sœurs, deuxièmement, parce qu'elle est faible. Bon, il est accusé immédiatement, sans qu'on puisse relier quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit, cet homme et ce meurtre. Et pourtant, il est désigné pour, et il a eu de la chance, et sa famille aussi, il a eu de la chance de s'en sauver. C'est, une fois encore, le poids, la gangrène du fanatisme, et aussi de la bêtise. Parce que le fanatisme, c'est bien, mais c'est pas l'excuse souveraine. Il y a aussi la bêtise, l'ignorance, les gens et le plaisir de persécuter. Ça se retrouve encore beaucoup ces temps-ci.
Les juges de l'époque, Voltaire les appelait, ses parlementaires, les appelaient les bœufs tigres. Voilà. Parce qu'ils disaient, ils sont bêtes comme des bœufs, méchants comme des tigres.
C'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui dans une société, on ne peut pas comprendre, il faut vraiment creuser pour comprendre, dans une société où les gens sont formés, où on étudie les expériences. Enfin, je veux dire, nos juges, nos magistrats, dont certains ne sont pas sans défaut, mais d'autres, la majorité fait bien son boulot, ce sont des gens qui sont formés, qui ont une expérience, etc. Et qui travaillent dans un cadre que nous avons peu à peu établi, l'époque.
Ça, ce sont des affaires religieuses. D'ailleurs, je vous propose d'aborder tout de suite la troisième grande affaire religieuse qui a fait saigner le cœur de Voltaire, si on peut dire. C'est cette affaire du pauvre chevalier de la Barre. Alors ça, j'ai eu l'occasion de le raconter déjà plusieurs fois ici. C'est une très belle histoire, d'ailleurs, qu'on n'a pas le temps de résumer ici parce qu'elle est vraiment très complexe. Mais en gros, c'est la vengeance d'un enquêteur sur place qui est l'ennemi juré de la tante d'un jeune homme et il va se venger sur ce pauvre gamin. Alors qu'on a eu, il y a eu une affaire terrible de sacrilège sur un crucifix, donc à l'époque c'était très très grave.
Et on accuse la Barre de ça.
Mais oui, mais le problème c'est que la Barre n'est pas accusée de ça, il est simplement accusé de ne pas avoir salué une procession.
Alors, il est vrai qu'à l'époque, vous savez, ça se passe encore il y a quelques années, ça se passait encore dans certaines campagnes, où quand le prêtre allait porter l'onction dernière à des mourants, avec la petite clochette et l'enfant de cœur, les gens se découvraient, ou même se mettaient à genoux, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est au fond le respect d'une certaine croyance. Dans cette affaire-là, il est avec ses deux amis, là, il est un peu provocateur, il fait exprès.
C'est un petit esprit fort.
Et puis surtout, on trouve une chose importante. C'est le pire. C'est le dictionnaire philosophique de Voltaire chez lui. Or ça, c'est la bombe.
Il y avait aussi la religieuse en chemise, mais surtout le dictionnaire philosophique. Et ça met Voltaire dans l'affaire, en quelque sorte. Parce qu'on dit, c'est la mauvaise littérature de Monsieur de Voltaire qui a perverti l'esprit de ce jeune homme. Voltaire se sent personnellement visé, là, bien entendu. Le problème, c'est qu'il va se montrer quand même beaucoup plus prudent que dans les affaires précédentes.
Peut-être qu'il n'a pas toute l'information non plus, et que le personnage est quand même plus trouble.
Plus sulfureux.
Que le Führer, ouais. Et que Voltaire ne veut pas se mouiller, il faut bien le dire. Il ne faut pas non plus prendre Voltaire pour un saint.
C'est ça, hein, voilà. Et Voltaire écrira, mais plus tard, le cri du sang innocent. Il fera réhabiliter la barre, mais c'est bien après l'exécution, malheureusement, parce que le pauvre chevalier de la barre, il a été torturé, exécuté.
La langue coupée, décapité.
Des choses absolument épouvantables. Alors qu'on avait demandé la grâce du roi et que Louis XV n'a pas osé donner sa grâce parce qu'il n'avait pas gracié la personne qui l'avait attaqué lui-même, c'est-à-dire Damien, en 1757. Et Louis XV s'est dit, je n'ai pas gracié celui qui s'est attaqué à ma personne, comment gracierais-je celui qui s'attaque à la personne du Christ ? Mais personne n'a jamais prouvé de près ou de loin que la barre s'était attaquée à la personne du Christ. Bref, c'est une affaire terrible qui est devenue, alors là pour tous les anticléricaux, le symbole même de l'obscurantisme religieux. Bon, ça ce sont les affaires religieuses. Mais ce qui est étonnant avec Voltaire, c'est qu'il va plus loin et qu'il est capable aussi de prendre fait et cause sur des dossiers qui sont spécifiquement politiques. Et je pense là à une affaire qui, à l'époque, a eu un retentissement considérable. Ça a d'ailleurs sans doute coûté la vie au chevalier de la Barre parce que son procès a été jugé dans la foulée, de celui de Lally Tollendal. Alors expliquez-nous en deux mots qui était ce Lally Tollendal.
Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, cet homme-là. C'est un militaire. Il était lieutenant général en Inde pour réorganiser la défense des comptoirs français dans l'Inde. Mais il n'a ni argent, ni munitions. Et évidemment, il est obligé de démissionner. Il est obligé de s'enfuir. Alors, il doit capituler à Pondichéry, qui était dans l'un de nos comptoirs. Et il est fait prisonnier. Il est envoyé en Angleterre avec 2000 prisonniers. Et en novembre 62, il arrive quand même à s'en sortir. Il rentre en France et il veut se justifier. Eh bien, il est aussitôt embastillé. Il est condamné par le Parlement de Paris, très rapidement, 4 ans plus tard. Et décapité en place de Grève. Lui, il n'a pas de chance, quoi, ce type-là.
Il faut dire peut-être qu'il arrive à un moment où la France, humiliée, a dû subir ce qu'on appelle le traité de Paris, c'est-à-dire une défaite totale face à l'Angleterre en 1763, et que l'on a perdu toutes les colonies, que ce soit en Amérique du Nord ou sur le continent indien.
Il est le symbole de la défaite.
Et voilà. Et on va lui faire ce que Voltaire comprend très bien et ce qu'il n'accepte pas, c'est qu'on veuille faire payer à Lally Tollendal l'humiliation publique et la défaite du royaume.
La défaite du royaume.
C'est, en fait, est-ce qu'on peut parler là d'un bouc émissaire ?
Absolument, c'est un bouc émissaire. Le pauvre, il aurait dû rester en prison en Angleterre.
Et comment Voltaire, encore une fois, peut-il s'intéresser on est là quand même sur une attitude qui est très moderne de la part de Voltaire.
Là, à mon avis, c'est plus une attitude politique, un compte à régler avec le roi. Voltaire, c'est quand même la porte ouverte à la réflexion de la Révolution. Il fait partie des Lumières. D'abord, c'est un homme qui se bat, qui adore se battre, qui adore faire savoir qu'il se bat, qui adore faire savoir qu'il est là. Bon, cet aspect de Voltaire, il ne faut pas le nier. En plus de ça, ça l'a servi beaucoup. Dans cette affaire-là, où d'ailleurs il a perdu,
Lally Tollendal ne sera jamais réhabilité.
Non, jamais réhabilité. Donc, Voltaire, dans cette affaire-là, il apparaît comme l'homme qui a changé un petit peu d'intérêt, j'allais dire de gourmandise, d'intérêt. Et il a voulu se faire le roi. Et à mon avis, il s'est trompé.
Ce qui est très intéressant, et pour revenir à l'affaire dont on célèbre le 250e anniversaire, pour être tout à fait précis, on célébrera le 9 mars le 250e anniversaire de la cassation du procès, de la sentence de Toulouse par le Parlement de Paris, et donc la réhabilitation pleine et entière de Jean Calas. D'ailleurs, on met beaucoup de... La garde des Sceaux en personne se rend sur place, ça va être un grand événement. L'association Jean Calas, le Cercle Condorcet de Paris et le Théâtre à deux voix organisent à Toulouse le lundi 9 à l'occasion de cette commémoration, donc une grande cérémonie à midi, commémoration sur la place Saint-Georges, là où Jean Calas avait été supplicié en présence donc de Christiane Taubira. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous intéresse encore dans ces affaires, Paul Lefebvre ? Pourquoi est-ce qu'on donne autant d'éclat à cette célébration du 250e anniversaire ?
Le droit. Notre droit contemporain qui a besoin encore d'être modernisé, affiné, équilibré surtout, mais la dignité de l'homme tout seul face à la société, c'est ça au fond. L'homme seul n'est pas forcément coupable. L'homme seul n'a pas forcément raison. Mais la société tout entière, c'est-à-dire les autres, qui parfois les autres c'est la rumeur, parfois c'est les sentiments, c'est la foule, parfois c'est la foule, les autres. Eh bien, ce qui nous vaut aujourd'hui, c'est quand même d'être dans une société qui, avec ses défauts et ses qualités, elle est quand même équilibrée. dans la défense de l'individu. Il n'y a d'ailleurs pas besoin de jeter un coup d'œil loin de la carte de l'Europe pour voir qu'on est en avance et qu'il faudrait bien que d'autres profitent de notre procédure, ou notre expérience plutôt.
Merci beaucoup Paul Lefebvre. Je renvoie nos auditeurs à vos émissions de W9 et de Planète Justice, bien entendu. Revenez nous parler d'histoire judiciaire quand vous voulez.
Ah, merci.
Repin au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Jules. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait que vous reveniez sur l'expression « faire le mariole ».
Alors, le mariole, voilà une question. Ça vient de l'italien, figurez-vous. Mariolo ou mariuolo, ce qui veut dire l'escroc. Et l'expression italienne « fare le marie », c'est-à-dire « faire les maris », ça désignait les petits malins qui feignaient d'adorer la Vierge en exagérant leur dévotion. Donc on a mêlé, si vous voulez, les deux expressions, et au XVIe siècle, en France, un mariole a désigné un escroc, une personne maligne ou rusée. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'on va employer l'expression dans un tout autre sens, puisqu'aujourd'hui, un mariole, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de vous truander, c'est plutôt quelqu'un qui se fait remarquer, qui veut se mettre en avant, en quelque sorte. Le fanfaron, le pitre, si vous voulez. Ça, c'est une acception relativement récente. Alors, il y a une autre explication que je trouve très belle, c'est pour ça que je vais vous la donner, même si elle n'est pas avérée du tout. Il s'avère que Dominique Guy Mariole était sapeur de l'armée impériale. Il a vraiment existé, on le retrouve incontestablement dans les rôles de l'armée du temps de Napoléon. On le surnommait l'indomptable. C'était un homme d'une grande taille et d'une force incroyable, et un jour il aurait sauvé la vie de l'empereur. Et au moment de présenter son fusil, au moment du salut, il présente un canon pour souligner la grandeur de son chef. Napoléon est conquis par le personnage, et on a imaginé que l'expression « ne pas faire le mariole » viendrait de là. En réalité, je vous avoue que tous les spécialistes de la langue auraient plutôt tendance à privilégier la première explication.